Au quotidien, avec Clotilde Seil.
La culture, notre plus grand trésor. Extrait, c'est pas un extrait, c'est toute la lettre que Yannick Nézet-Séguin a fait paraître dans les journaux ce matin suite à l'annonce de l'éventuelle possibilité de fermeture des conservatoires d'art dramatique et de musique en région. Madame la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David. Toutes sortes d'informations des plus inquiétantes circulent en ce moment au sujet de l'avenir du réseau des conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. Permettez-moi, en mon nom et en celui de mes nombreux collègues et amis de l'Orchestre métropolitain, qui y ont, tout comme moi, reçu une formation d'une qualité exceptionnelle, de vous adresser ces quelques mots. À l'instar de la population en général, nous sommes conscients et sensibles aux défis de nature économique auxquels le Québec est confronté actuellement. Mais quelle autre nation peut se vanter de ne pas faire face à de tels défis? D'entrée de jeu, il faut reconnaître que le monde de la culture, notamment le réseau des conservatoires, a déjà fait par le passé l'objet de compressions importantes. Celles-ci ont eu pour conséquence de fragiliser une institution phare, s'il en est une, qui a fait ses preuves et devrait, plutôt que de lutter pour sa survie, se concentrer sur son mandat premier, celui de former les musiciens et les comédiens professionnels de demain. Inspiré des grands conservatoires européens, l'enseignement qui y est offert se caractérise depuis sa fondation par la sélection des candidats les plus prometteurs, la valorisation de la relation maître-élève et l'accompagnement personnalisé. Vous savez tout comme moi que ce réseau, qui s'étend de Val-d'Or à Québec, de Rimouski à Gatineau en passant par Saguenay, Trois-Rivières et Montréal, a donné et donne encore au Québec un rayonnement exceptionnel, et ce, même à l'échelle internationale, grâce à des artistes tels que Karina Gauvin, Marie-Nicole Lemieux, Marie-Josée Laure, David Jalbert, Marc Hervieux, Angèle Dubois, Jacques Lacombe, Alain Trudel, pour n'en nommer que quelques-uns. Peu importe l'endroit où ces grands artistes se produisent, ceux-ci se font le porte-étendard de cette grande institution qui assure, rappelons-le, une formation professionnelle continue, allant du niveau élémentaire à la maîtrise universitaire. Il faut aussi reconnaître que le milieu musical québécois est largement constitué d'artistes ayant eu le privilège de fréquenter l'un ou l'autre des conservatoires. Plusieurs y enseignent désormais et contribuent ainsi au renouvellement des musiciens professionnels de demain, toujours avec les standards de qualité uniques à l'institution, mais dans un contexte, reconnaissons-le, affaibli par les nombreuses compressions subies au fil des ans. Madame la ministre, nous sommes convaincus de l'importance capitale du réseau des conservatoires pour le Québec. Il faut non seulement préserver et assurer la pérennité de cette grande institution, mais aussi lui permettre de se développer, de s'épanouir et permettre enfin à ses artisans de se concentrer sur autre chose que leur simple survie. Ils pourront ainsi rassembler leurs énergies et se concentrer ensemble sur l'essentiel, l'enseignement aux élèves. La culture, c'est notre plus grand trésor, c'est notre avenir. Qui se souvient de son passé. La qualité de notre vie, la qualité de vie de toute notre société est en jeu, concluait Yannick Nézet-Séguin. Et je vous rappelle que c'est l'orchestre des jeunes musiciens du conservatoire de Québec que nous entendions. Évidemment, c'est un disque qui a déjà quelques années. Alors j'imagine même que beaucoup parmi eux font aujourd'hui partie d'orchestres réputés comme l'OSM ou l'Orchestre métropolitain ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres. On nomme souvent que c'est de là, mais il faut penser aussi à Longueuil, à Québec, au Violon du Roi. Tout ça, c'est un bassin de musiciens qui sortent tous d'écoles telles que le conservatoire, et pas seulement à Montréal et Québec, mais aussi en régions un peu plus éloignées comme au Saguenay ou encore à Rimouski. Alors, une autre opinion, puisque en ce début de deuxième heure, il s'agit toujours d'opinions ou de lettres que je vous lis. Celle-ci vient de Catherine Fournier, elle a 22 ans. Elle est candidate à l'investiture du Bloc québécois dans Montarville Et elle est à Édimbourg en ce moment et elle parle de son premier référendum. Elle écrit, Catherine Fournier, le 30 octobre 1995, j'avais 3 ans. Née dans la foulée de Charlottetown et des grands débats constitutionnels, j'ai commencé à m'éveiller politiquement près de 15 ans après le dernier référendum. Le Québec, lui, était déjà rendormi depuis longtemps. Depuis que je milite activement pour l'indépendance du Québec, on ne cesse de me répéter que c'est un débat dépassé, que c'est une question qui n'aurait plus sa place dans notre monde globalisé. Plusieurs croient qu'il faudrait tourner la page, passer à autre chose. Du haut de mes 22 ans, je refuse pourtant de mettre un trait sur mes rêves, de renier mes aspirations et de tourner le dos à l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, un monde que le pays du Québec pourra contribuer à bâtir. En fait, il faut surtout dire que je rejette les qualificatifs qui sont accolés à mes idées. Loin d'être d'un autre siècle, les ambitions nationales des peuples sont plus que jamais d'actualité, alors que l'OTAN s'annonce très chaud sur le plan politique en Europe. En effet, tant les Écossais que les Catalans seront consultés sur leur avenir collectif dans les semaines à venir. Deux nouveaux pays pourraient ainsi bientôt voir le jour. C'est avec cette fascination naturelle que j'ai décidé, il y a déjà de ça plus d'un an, que je viendrai vivre mon premier référendum sur l'indépendance de l'autre côté de l'Atlantique. Sous les châteaux et les étendues gazonnées, l'Écosse ne se fait pas prier pour se faire aimer. Si les régions écossaises sont tapissées de « yes », Édimbourg, elle, se fait plus discrète. L'affichage ne fait pas partie des mœurs politiques de l'endroit. Il faut creuser un peu plus loin pour que les Édimbourgeois montrent leurs couleurs. Malgré tout, on met la table pour une victoire du « oui » dans la capitale. Les résultats du pointage des électeurs, ici effectués presque entièrement par le porte-à-porte, sont particulièrement encourageants. Après 400 ans de lutte, l'indépendance semble ainsi à nouveau être à portée de main des Écossais. Plus les jours passent, plus le camp du « oui » prend du galon et plus la campagne du « non » ressemble à s'y méprendre au scénario québécois de 95. Faut dire que certains de nos fédéralistes notoires, dont Jean Chrétien et Stéphane Dion, ont parcouru le Royaume-Uni au cours de la dernière année pour y aller de leur conseil à l'endroit des unionistes. Disons donc que ce hasard ne doit pas être étranger à la situation actuelle. Ne manquerait plus qu'un Lovin pour compléter le portrait. Ici, on n'a pas osé envahir les terres écossaises. Les Britanniques ont démontré leur amour en direct de Westminster, quoi qu'il en soit. J'ai bon espoir que les Écossais ne tomberont pas dans le piège de la peur. Du moins, je leur souhaite de tout cœur. La peur bloque, elle empêche, elle fait reculer. Il faut au contraire oser pour l'avancer. L'Écosse a tout ce qu'il faut pour devenir un pays prospère où la solidarité sera l'un des piliers fondamentaux. Aujourd'hui, les Écossais pourront enfin se dire oui à l'occasion d'une vie. Je me sens privilégié d'être à leur côté. There you go, Scotland. Normand Brault est de Montréal, il fait paraître ceci ce matin dans Le Devoir, un système de justice qui joue son rôle. Quand j'ai entendu Patrick Gaston, le frère de la mère des enfants assassinés, crier son indignation et sa colère, je me suis dit que nous étions chanceux de vivre sous un système de justice géré par des gens compétents, rationnels et obligés de se distancier de leurs émotions. Je demeure sensible à la douleur des victimes d'actes criminels, à leur peine, à leur rancœur et à leur incompréhension. Je me permets tout à la fois de regretter que ces sentiments soient récupérés par les boisvenus de ce monde, ces personnes qui tentent d'établir un lien direct entre le respect dû aux victimes et la punition toujours plus forte des coupables, ou pas encore reconnus comme tels. Que l'on améliore l'attention due aux victimes, fort bien. Mais qu'on évite de faire croire que plus les coupables souffriront, mieux les victimes s'en porteront. Notre système de justice, toujours perfectible, me semble bien jouer son rôle d'assurer l'application du droit. Cela dit, je trouverais souhaitable qu'intervienne une forme de justice réparatrice qui pourrait permettre à des personnes touchées par un acte criminel de reprendre du pouvoir sur leur vie en réunissant des personnes ayant subi et ou commis des crimes apparentés, ainsi que des membres de la communauté, pour dialoguer et restaurer ensemble ce que le crime a brisé. Normand Brault conclut en disant « On rétablirait ainsi une harmonie communautaire ». celle-ci, cette opinion-là, a été écrite par Mathieu-Xavier Roy. Il est de Québec. Il écrit « On apprend que les universités feront face à des coupes de 300 millions dès cette année. L'université Laval écoperait de 42 millions de coupes. Ce qui m'étonne et me scandalise, écrit ce monsieur, ce ne sont pas ces annonces de compression ni les montants de celles-ci. Ce qui m'étonne et surtout me scandalise, c'est la réaction de Denis Brière, le recteur de l'université Laval. Denis Brière se tait. Pourtant, en décembre 2012, il est monté aux barricades pour dénoncer très durement la décision du gouvernement marois de réduire la croissance du budget des universités de 5 à 3,3%. Pour l'université Laval, le manque à gagner était alors de 18 millions. Denis Brière a alors tenté de mobiliser les principaux leaders de la région de Québec contre le gouvernement. Il a multiplié les entrevues à la radio, à la télévision et dans les journaux. Il a écrit à tout le personnel de l'université Laval pour dénoncer le gouvernement. Il a acheté de pleines pages de publicité dans les journaux. Il a menacé de boycotter le sommet sur l'enseignement supérieur qui visait à mettre un terme à la crise étudiante. Il a même menacé de fermer le PEPS le soir et les fins de semaine. Il n'y a rien qu'il n'y a pas fait. Il n'y a rien qu'il n'a pas dit pour dénoncer le gouvernement marois. Aujourd'hui, face au gouvernement Couillard, que dit-il ? Je rappelle les chiffres. Le gouvernement marois imposait des compressions de 18 millions à son université. Celle du gouvernement Couillard totalise 42 millions. La seule explication possible est qu'en 2012, le recteur ne défendait pas son établissement. Il se servait de son poste de recteur pour attaquer ses adversaires politiques. Aujourd'hui, il ne défend pas davantage son établissement, il protège ses alliés politiques en se taisant. Le rôle d'un recteur est de faire progresser l'université, de défendre cette institution, et non de s'en servir dans une lutte partisane larvée. Cela est indigne de la fonction de recteur. François Thavenat n'aurait jamais agi ainsi. Et bien évidemment, aujourd'hui, tous les yeux sont tournés en Europe et plus précisément en Écosse. Alors, que dit-on dans Le Devoir, sous la plume de Claude Lévesque ? Voici la deuxième partie de sa chronique de ce matin. Il nous dit « Aux yeux des unionistes, les indépendantistes écossais ont toujours tort. Ils peuvent être accusés un jour d'être trop émotifs et pas assez conscients de la dure réalité de l'économie et le lendemain d'être des égoïstes et des sans-cœur parce qu'ils présentent des arguments chiffrés. » Cela étant dit, depuis une semaine et demie, ce sont manifestement les partisans de l'unité du royaume qui donnent dans le pathos. Ils prédisent la catastrophe si le oui l'emporte, ne réalisent peut-être pas qu'ils esquintent eux-mêmes la livre sterling et les titres britanniques avec leurs propos alarmistes et leur refus affiché de négocier avec les Écossais si ces derniers ne leur obéissent pas au doigt et à l'œil. Alex Salmond et ses troupes ne sont pas les seuls à penser que les Écossais se retrouveront le bec à l'eau s'ils votent non aujourd'hui. Henry McLeish, un ancien premier ministre travailliste d'Écosse, prédit que les partis britanniques ne tiendront pas leurs promesses après un vote contre l'indépendance. M. McLeish n'est pas un partisan du oui, mais il aurait souhaité qu'en cas de victoire du non, une deuxième question soit posée aux Écossais pour qu'on sache quel genre de relations ils souhaitent avoir avec leurs voisins anglais et gallois. Il n'est pas allé jusqu'à affirmer qu'un oui leur donnerait de meilleures chances d'obtenir des concessions de Westminster, le Parlement de Londres, mais il a clairement dit que les chances seraient minces en cas de victoire du non. La campagne du oui, qui s'est associée à des causes progressistes, a paru beaucoup plus festive que celle du non, qui n'a rien de bien emballant à proposer. L'Écosse est riche, grâce à son pétrole, certes, mais aussi parce que sa population est instruite et que ses universités comptent parmi les plus prestigieuses du monde. Pourtant, de nombreux Écossais hésitent à mettre fin à une union qui a duré plusieurs siècles, qui n'a pas été trop malheureuse et qui a même permis à certains d'entre eux de s'enrichir prodigieusement dans l'aventure coloniale. Les temps ont changé. Qu'ils soient d'Écosse ou d'ailleurs, les Britanniques ne rêvent ni d'empire ni de domination planétaire. Ils s'intéressent à la qualité de la vie, à l'environnement et à l'agriculture bio, comme Charles, le prochain roi. Écosse toujours, le suspense durera toute la nuit, si l'on en croit Yves Boisvert. Par une nuit de brouillard, un bateau quittera le port de l'île de Tyree, dans les Highlands, avec à son bord le bulletin qui décidera du sort du Royaume-Uni. Je n'écris pas ça pour faire pittoresque, enfin, presque pas, dit Boisvert. Les méthodes de comptage écossaises, mais britanniques en général, sont telles qu'on ne connaîtra pas le résultat national officiel du référendum avant demain, à 6 ou 7 heures, heure locale. Donc demain matin, heure locale, autrement dit, vers 6-7 heures, heure locale. Nous, attends, on est 6 heures de plus ou de moins, je ne sais jamais. On est 6 heures de moins. Donc, on va le savoir vers minuit, 1 heure, quoi, finalement. Quelque chose du genre, c'est ça. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Il va falloir que je revienne peut-être là-dessus. Obtenir le résultat juste est plus important que de l'obtenir rapidement, a écrit l'an dernier Mary Pickett-Lee, directrice du comptage, dans un document explicatif. Il y a 32 régions électorales, chacune comptant ses bulletins dans un endroit unique. Il faut donc acheminer toutes les boîtes de scrutin dans un centre unique de comptage pour chaque région. À Glasgow ou Édimbourg, ce n'est pas particulièrement compliqué, mais dans les îles du Nord-Ouest, on doit les acheminer sur la terre ferme, la petitesse de la population ne justifiant pas de centre de comptage local. Dans la région d'Ergill et Beauty, dans les Highlands, en raison de la difficulté de récupérer les boîtes de scrutin la nuit, ils ont l'habitude de compter les bulletins le jour suivant. Mais ce vote étant historique, on fera une exception. Toute une exception d'ailleurs, des hélicoptères ont été réquisitionnés. Mais s'il pleut, s'il y a trop de brouillard, ce sera par voiture jusqu'au port, puis par bateau. D'où ce scénario, pas farfelu du tout, quand on considère 1. les risques élevés, pour ne pas dire la tradition de mauvais temps en Écosse, et 2. les sondages qui donnent les deux camps au coude à coude. Un bateau dans le brouillard, dans une mer démontée avec le bulletin gagnant. Ça se peut, dit Yves Boisvert. La directrice du comptage conclut qu'il est peu probable que le résultat soit connu dans les premières heures de la nuit. Les résultats des élections du Parlement britannique en 2010 ont été connus à 6h30 et ceux des élections au Parlement écossais en 2011 à 7h30. Certes, compter des oui, non ou nul est moins long que de démêler les votes d'une multitude de candidats, mais 97% des électeurs sont inscrits. 4 285 323 personnes, c'est du jamais vu. Et si le taux de participation est ce qu'on pense, il y aura 25% de plus de bulletins à compter. Les 32 compteurs ont été consultés et ont estimé leur heure de livraison. Elle se situe entre 2h et 6h du matin. Donc, il sera midi ici, en fait. Donc, ce sera peut-être que pendant l'émission, on aura l'émission de demain, vendredi. Va falloir suivre ça de très très près, Martin, mais peut-être qu'on aura le résultat final en direct à cette émission au quotidien. Bon, bref. Mais en attendant, on n'est pas couché là-bas en Écosse. C'est ce que voulait nous dire Yves Boisvert. Dans les rues, apparemment, on parle d'une faible avance du non. Dans les rues, le oui est beaucoup plus visible. Pancartes, rassemblements, cocardes, t-shirts. Les militants sont gonflés d'optimisme vu les sondages des dernières semaines qui ont vu décoller l'option. Mais tout ça peut être trompeur, dit le politologue John Curtis d'une université à Glasgow, qui est reconnu comme l'autorité en matière d'analyse de sondages en Écosse. Les trois derniers sondages publiés disent essentiellement la même chose. Le non est en avance de 2 à 4 points. Le non est en avance et a plus de chances de l'emporter. Mais je ne gagerai pas ma maison sur aucune des deux options, a-t-il dit à Yves Boisvert au téléphone. Plus tôt cette semaine, il a publié une analyse de sondages internationaux parue les jours avant un référendum dans différents pays, dont celui du Québec en 1995. Conclusion, dans la quasi-totalité des cas, le oui a été surestimé dans les sondages. C'est ce qu'on mesure dans ces chiffres-là. Alors pourquoi? Eh bien parce que les indécis ont tendance à être davantage en faveur du non. C'est tout simplement ça. Et il y a 1 million de personnes de plus sur la liste électorale. C'est considérable, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui sont ces gens. Le plus important sera le taux de participation, qui n'est pas la même chose. Encore faut-il que les inscrits votent. Le oui a fait un effort particulier pour faire inscrire des gens qui n'avaient jamais voté, des gens désabusés de la politique. Peut-être déjoueront-ils les sondeurs, tout est possible. Et en vérité, on n'en a aucune idée. Ce n'est pas une clientèle qui va nécessairement aider le oui. Et puis, quelques caricatures sur le sujet. Les Écossais à la croisée des chemins. C'est Badeau qui représente ça dans le droit. Vous savez, le drapeau anglais est fait de cette croix. Donc, lui, il a comme... réduit, il a fait un gros plan sur ces croix, sur ces chemins qui se croisent et on dirait des routes. Alors là, on voit une voiture qui roule évidemment sur la gauche et le penseur qui pense, le chauffeur qui pense, oh, la seule certitude, c'est qu'on roulera à gauche demain. Effectivement. Il y a celle-ci, délégation péquiste en Écosse avec entre autres PKP et sa blonde, Madame Snyder, eh bien, eux sont aussi là-bas. Et alors, on le voit déguisé en Écossais, en train de jouer de la cornemuse, monsieur Péladeau, et il dit « Oh, si les indépendantistes perdent, on dira que c'est à cause de l'argent et du vote ethnique. » Et puis, une petite dernière ici. Un Écossais en Écosse, ça c'est présenté par Côté, dans Le Soleil. Alors, on voit un Écossais en Écosse qui est simplement représenté avec un costume tout à fait traditionnel, avec un petit « yes » sur la bordure, avec quand même une petite cravate. Carotté, vous savez, mais style écossais, mais pas plus que ça. Et à droite, un Québécois en Écosse. Et le Québécois en Écosse, il ressemble beaucoup à Bernard Drinville. Il est complètement surexcité. Il est fou, furieux. Et il est en train de jouer de la cornemuse. Et là, il est plein de pancartes. Oui. Il saute par terre. Évidemment, il est en kilt. Voilà, ça, c'est le Québécois en Écosse. Mais l'Écossais, lui, en Écosse, il est tout à fait calme. Et puis, nous sommes toujours à l'international. Voici un papier de Guy Taillefer, paru dans Le Devoir de ce matin au sujet de M. Obama. Ça s'appelle « À petits pas ». Il écrit, M. Taillefer, « Les Républicains ne vouent pas moins qu'avant l'Obamacare aux gémonies, mais plusieurs d'entre eux renoncent maintenant à en faire un enjeu de campagne en vue des élections prochaines de mi-mandat au Congrès américain. Et voici pourquoi. » Sans être une panacée, la réforme de l'assurance maladie, laborieusement mise en place il y a un an par Barack Obama, est en train de faire la preuve de son utilité. Tiens donc, si l'Obamacare n'apparaît plus guère sur les écrans radars des politiciens et des médias, il reste que, si ce n'est qu'en proportion modeste, les chiffres indiquent qu'il remplit sa mission principale, réduire le nombre d'Américains sans assurance, après avoir été lancé il y a un an, dans le plus extraordinaire des cafouillages informatiques. Un nouveau rapport du Centre national des statistiques en santé, un organisme fédéral, indique qu'au premier trimestre de 2014, la proportion d'Américains non assurés était de un peu plus de 13%. Cette proportion était de 14,4% un an plus tôt. La question a fait l'objet de plusieurs autres enquêtes qui, sans parvenir au même chiffre, s'entendent néanmoins pour dire que l'Obamacare a encouragé des millions d'Américains à se munir d'une police d'assurance maladie privée ou à souscrire à la version élargie du Medicaid, le programme fédéral d'assurance maladie destiné aux familles pauvres. En avril dernier, le président Obama s'était en outre vanté du fait que le tiers des adhérents avait moins de 35 ans. Une donnée encourageante, encore que sujette à caution, comme l'équilibre du système tient à la participation maximale des jeunes assurés. Dans l'immédiat, l'Obamacare n'a pas non plus déclenché de flambée du coût des polices, la plupart des experts prévenant toutefois les Américains qu'ils ne perdent rien pour attendre. Les compagnies d'assurance contiennent leurs prix pour le moment, question de se positionner dans ce marché émergent. Cela n'exclut pas que presque la moitié des Américains, poursuit Guy Taillefer dans Le Devoir, donc presque la moitié des Américains, selon les sondages, voient d'un mauvais œil cette loi sur les soins de santé abordables, la jugeant intrusive. La culture sociale est ainsi faite aux États-Unis, première économie mondiale. Le travail de sape anti-étatique du Parti républicain pérennise cette culture. Le fait est aussi que, gracieuseté de l'État islamique, les républicains peuvent miser, en vue des législatives de mi-mandat du 4 novembre, sur un autre cheval de bataille, celui de la sécurité et des affaires étrangères. Terrain sur lesquels, par désolantes forces d'inertie, ils partent toujours gagnants contre les démocrates. À la guerre comme à la guerre, la victoire les attend sur d'autres fronts idéologiques. Monsieur Obama, très impopulaire à 2 ans de la fin de sa présidence, aura moins eu le mérite d'améliorer le sort en matière de santé, aura au moins eu le mérite d'améliorer le sort en matière de santé d'un certain nombre de citoyens. Je vous rappelle que c'est Clotilde Seille qui vous accompagne sur les ondes de Canal M pour vous faire la lecture des journaux au retour d'une toute petite pause, des sujets un peu plus légers et puis des sujets dans le milieu culturel. Et puis on finira cette émission comme toujours avec un peu de sport et quoi d'autre en ce moment que le Canadien de Montréal qui n'a même pas encore commencé à jouer, imaginez.